9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
On parle de santé, de bien-être et de dents sur Beurre FM le matin entre 9h et 10h, puisque nous allons parler des dents avec le docteur Bilal Omarji. Bonjour doc.
Bonjour Philippe.
Chirurgien oral, membre de la SFCO. On va parler des différentes et des plus courantes opérations de la bouche ce matin. Et l'opération la plus fréquente en chirurgie buccale, c'est l'extraction des dents de sagesse. Pourquoi est-ce qu'on dit dents de sagesse ?
Alors parce que c'est les dernières dents qui font éruption dans la bouche et elles font éruption en général, en moyenne, entre l'âge de 16 et 25 ans. Donc on est censé être, avoir acquis un peu de sagesse à cet âge.
Ah c'est pour ça qu'on dit sagesse ?
Exactement. Donc bon. C'est les dernières dents qui, d'adultes qui sortent dans la bouche.
Voilà, en Corée on les appelle les dents de l'amour, en Roumanie les dents de l'esprit et en Turquie les dents de 20 ans.
Tout cela revient à dire qu'on est censé être un peu plus mature vers l'âge de 20 ans. C'est pas toujours le cas.
Est-ce que ce sont des dents comme les autres, les dents de sagesse ?
Exactement, ce sont des dents comme les autres, des dents adultes, avec une particularité parce que elles prennent naissance dans la bouche assez tardivement. Il faut savoir, avant l'éruption, il y a toute la stratification de la dent qui se fait dans l'os, au moins 5 à 8 ans auparavant. Mais le fait que la formation de la dent se fait alors que le corps est déjà en croissance, ben, on peut avoir des variations anatomiques, une position souvent anarchique de la dent de sagesse qui peut être horizontale, tournée vers l'arrière, tournée vers l'avant, et une différence aussi de variation de forme, puisqu'on peut avoir des dents de sagesse qui sont naines et qui peuvent être miniatures. Bien. On a aussi une variation de nombre, on peut avoir une dent de sagesse supplémentaire, parfois deux, donc au lieu de quatre, on peut avoir cinq, six. En général, ils vont être miniaturisés et on peut avoir aussi une agénésie. Une agénésie, c'est l'absence d'une dent, de formation d'une dent. Et les dents de sagesse sont les premiers impactés dans cette absence de dents.
Et cette agénésie concernerait 25% des patients aujourd'hui, ça veut dire que 25% des gens n'auraient pas de dents de sagesse.
Alors, 25% des agénésies et pas 25% ah bon. De la totalité de la population.
Ça veut dire, mais tout le monde n'a pas de dents de sagesse, c'est ce que ça veut dire finalement.
En résumé, l'épidémiologie au niveau des agénésies, c'est moins de 5% de la population présente une dent en moins, et les premières dents touchées sont les dents de sagesse. Puis fréquemment, on a l'incisive latérale maxillaire, donc qui fait partie une des dents des sourires. J'en suis un cas.
C'est pas les dents du bonheur que vous avez.
Bah, en fait, c'est une conséquence. Comme il me manque deux incisives latérales, du coup, j'ai un surplus de place et mes incisives centrales sont un peu écartées, d'où le diastème et les dents du bonheur. Ça me va bien.
Oui, il y a des gens qui le font maintenant résorber, par exemple.
Alors, on a deux techniques. Soit c'est la fermeture d'espace, soit c'est l'augmentation de l'espace. Donc, la fermeture de l'espace, bah, ça passe par un traitement d'orthodontie. Donc, on réaligne le sourire comme si toutes les dents étaient présentes, et l'ouverture de l'espace permet de garder l'espace futur pour deux implants dentaires.
Des docteurs de labo, sans vouloir balancer les affaires rapprochées. Mais je trouve que ça change les gens finalement. C'est terrible parce que, enfin, c'est pas grand chose et ça change vraiment la physionomie des gens.
Exactement, puisque les dents en fait ont un impact important sur la croissance de la mâchoire et en conséquence sur l'aspect esthétique du visage. Donc avoir des dents en moins, on aura une croissance de la mâchoire moins développée, on pourra avoir des anomalies de positionnement de la mâchoire, une mâchoire trop reculée ou la mâchoire du bas qui est trop avancée.
On en parlera tout à l'heure pour les personnes qui sont prognates.
Exact.
Les dents de sagesse donc sont des molaires.
Sont des troisièmes molaires. Ouais. Donc on a quatre côtés, haut droit, haut gauche, bas droit, bas gauche.
Et elles servent à quoi alors ?
Donc en fait, alors là-dessus, sur la théorie scientifique et, actuelle, anthropologique en tout cas, c'est que plus l'homme évolue, plus sa mâchoire rétrécit, et donc les dents de sagesse auraient une fonction quasi inutile. Sinon, classiquement, elles servent de molaires, même si c'est les troisièmes molaires, elles ont un diamètre inférieur. Donc, si elles sont en bonne position dans la bouche, elles sont fonctionnelles, il n'y a aucune raison d'aller les enlever.
Alors, je le disais en début d'émission, le fait d'extraire les dents de sagesse, c'est l'opération la plus courante de la bouche. Quels sont les symptômes qui sont liés aux dents de sagesse ?
Alors, les dents de sagesse, c'est vrai que dans la population, on a cette image d'intervention assez lourde, 4 dents de sagesse à la fois, la bouche en hamster, de une semaine à 10 jours, alors qu'actuellement, les nouvelles techniques ont beaucoup changé la donne. On en reparlera.
Ça, c'est dans les rêves.
Non, je vous assure.
Quand vous voyez les gens qui se sont fait enlever les dents de sagesse, surtout les quatre à la fois, ils ont la tête d'hamster. Enfin bon.
Alors ça, c'est plutôt la technique des anciens praticiens, puisque actuellement, la technique a beaucoup évolué. On utilise ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, et ça aussi, ça concerne les dents de sagesse, donc les petites incisions, au lieu de faire un gros trou d'os dans la mâchoire pour aller extraire la dent, on va découper la dent très très finement en plusieurs morceaux pour pouvoir l'enlever comme un Lego en fait, dans un petit entonnoir osseux, et donc corollairement les suites opératoires seront moins importantes.
Mais la racine, vous l'enlevez comment ?
On découpe selon la position de la dent. Il y a une découpe particulière. La première découpe, c'est découper la couronne de la racine, donc chirurgicalement, après avoir décoller la gencive de manière esthétique, délicate. Donc on va faire une fenêtre osseuse sur le plus grand contour de la dent, donc qui est à peu près le milieu de la dent. On découpe la couronne. Une fois la couronne sortie, si les racines sont importantes, on va découper entre les deux racines. Parfois il y a 3 racines, parfois il y a 2 racines, parfois c'est plus avantageux pour le chirurgien puisque les deux racines sont fusionnées de manière conique, donc ça glisse très facilement. Donc tout ça, c'est sont des petites stratégies opératoires. Et même on opère, moi j'utilise fréquemment des loupes chirurgicale, et ça me permet d'être beaucoup plus fin, puisque je vais voir comme dans Grey's Anatomy là, en grossissement x3, et ça me permet de faire des petites incisions, des petites effractions de l'os, et moins on enlève de tissu, plus on respecte le corps et plus le patient cicatrise plus rapidement. Et donc oui, on fait maintenant, les praticiens pratiquent maintenant la chirurgie des dents de sagesse, les 4 à la fois sous anesthésie locale.
Avant, il fallait à l'hôpital pour ça.
Avant et encore maintenant, les praticiens plus âgés ont toujours l'habitude, hein, ceux qui ont plus de 50 ans, de faire les 4 dents de sagesse sous anesthésie générale. Pour le patient, il dort, mais sachez qu'en général, les suites opératoires sont beaucoup plus lourdes, puisqu'en fait, l'opération va être très rapide, mais beaucoup moins précautionneuse qu'au
fauteuil. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, vous faites les 4 dents à la fois.
Oui.
Et sous une anesthésie qui n'est pas générale.
Non, anesthésie locale, le patient est conscient et on peut utiliser, et j'utilise la sédation consciente. Alors qu'est-ce que la sédation consciente ? Avec un simple médicament anxiolytique une heure avant, le patient, il est un peu dans les vapes et ça se passe très bien. Il n'y a aucune douleur pendant l'intervention.
L'intervention qui va durer combien de temps ? Donc c'est 45 minutes pour une dent normalement. Donc ça
non, en général, ça dure à peu près 15 minutes par dent,
ah ouais.
Donc jusqu'à 60 minutes dans les cas un peu difficiles.
Faites donc en une heure, vous faites les 4 dents.
En une heure, les 4 dents sont pliées. Mais attention, avec qui le faire ? Il y a les chirurgiens dentistes. Les chirurgiens dentistes sont des praticiens généralistes. Ils ne pratiquent pas la chirurgie orale de manière exclusive. En général, eux, ils vont prendre plus de temps. Ils vont faire plutôt la technique 2 par 2. Donc 2 dents de sagesse, un mois après, 2 autres dents de sagesse, côté par côté.
Donc ça, c'est pour les dentistes ?
Les dentistes généralistes.
D'accord.
Qui vont, en général, faire les dents de sagesse simples à moyennement compliquées. Les dents de sagesse plus compliquées, il vaut mieux s'adresser à un spécialiste. Et on a donc la nouvelle spécialité de chirurgie orale depuis 2011. L'inconvénient, c'est qu'on est peu nombreux en France, puisqu'on en forme 30 par an en France depuis 2011. Donc les premiers sont sortis en 2015, et plus les anciens praticiens spécialistes, qui fait à peu près 250 praticiens. Il y a aussi les stomatologues qui est une ancienne appellation, donc des anciens spécialistes. Et maintenant, tous les nouveaux étudiants se forment à la chirurgie orale. Donc, on est tous appelés chirurgiens oraux.
Alors, quelles sont les indications pour les enlever, les dents de sagesse? Est-ce qu'on peut les laisser, finalement?
Alors, les dents de sagesse peuvent provoquer des accidents. En premier lieu, on a l'accident inflammatoire. L'accident inflammatoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'accident classique de la dent qui pousse. On aura une gencive congestionnée et c'est la porte d'entrée de l'infection dentaire due à la dent de sagesse. On appelle ça une péricoronarite. Donc péri autour, coronarite, inflammation de la couronne. Donc inflammation des tissus mous autour de la couronne. Donc inflammation de la gencive, parce qu'en général quand la dent de sagesse elle pousse, il y aura une sorte de capuchon gingival, et dans ce capuchon gingival il pourra y avoir des débris alimentaires qui vont se positionner et dans lesquels il y aura des bactéries, des mauvaises bactéries qui vont provoquer l'inflammation et l'infection gingivale.
Donc ça on peut pas le soigner avec des bains de bouche?
Alors si la péricoronarite au premier stade, elle est une péricoronarite simple, équivalent à une simple gingivite. Donc le fait d'avoir une très bonne hygiène, d'aller brosser dessus, évidemment avec une brosse à dents souple, va pouvoir éliminer ces petites poussées dentaires, hein, comme chez le bébé. Ensuite, on a la péricoronarite suppurée. On arrive au deuxième stade. Donc, l'infection est présente. Il y a, classiquement, pour faire le diagnostic, on va appuyer délicatement dessus. Il y aura une ou deux gouttes de pus qui vont sortir. Donc là, ça signe le diagnostic. Et là, en général, le traitement d'urgence, c'est des antibiotiques avec un petit nettoyage de la plaie. Ensuite, pour traiter définitivement, ce sera l'extraction de la dent de sagesse, si bien sûr l'indication de les enlever se pose.
Alors, il y a des indications esthétiques également.
Alors, esthétique au niveau des dents de sagesse.
On entend beaucoup de gens qui disent, voilà, j'ai mes dents de sagesse qui ont décalé toutes mes dents, donc il faut les enlever.
Oui, alors deuxième chapitre, pourquoi les enlever? Après l'accident inflammatoire et infectieux, on a l'accident mécanique. Qu'est-ce que l'accident mécanique? Ma mâchoire est petite, ou j'ai fait un beau traitement d'orthodontie, j'ai plus de place pour la dent de sagesse, donc la dent de sagesse, quand elle va pousser, elle va aller embêter la dent d'à côté, la deuxième molaire. La deuxième molaire, sa racine pourra être détruite ou pourra être cariée. Donc au final, on prend le risque de perdre les deuxièmes molaires. Et aussi, on a un risque de déplacement dentaire, en général localisé sur les molaires. Alors parfois, il y a une corrélation avec les dents de devant, mais la littérature scientifique n'est pas précise là-dessus, ouais. Puisqu'il n'y a pas forcément de lien avec la récidive de l'encombre des dents antérieures. C'est plurifactoriel. Donc, en tout cas, de manière préventive, on peut aller les enlever, ce qu'on appelle l'extraction prophylactique, donc l'extraction avant que les problèmes n'arrivent. Souvent, les orthodontistes, pas tous, aiment qu'on les enlève après leur beau traitement d'orthodontie, ce qui donne une garantie supplémentaire pour pas que ça vienne embêter.
Alors, on parlera des implants tout à l'heure, mais est-ce qu'on fait des implants sur des dents de sagesse?
Alors,
ça
non.
Existe ou pas? Non.
Non, puisque les dents de sagesse, dans la fonction masticatoire, elles présentent moins de 5% de l'efficacité masticatoire. Donc, on ne va pas les remplacer.
Alors, j'ai regardé les questions les plus fréquentes qui sont posées suite à l'extraction des dents de sagesse. C'est de savoir, une qui revient souvent, c'est le tabac. Combien de temps après s'être fait enlever les dents de sagesse, on peut refumer? Et pourquoi c'est pas bon de fumer après?
Alors, de manière pratique, quand on a une chirurgie de la bouche, que ce soit dents de sagesse, implant et greffe osseuse ou greffe gingivale ou une opération pathologique comme pour enlever un kyste, le tabac et la chirurgie de la bouche ne fait pas bon ménage, puisque dans le tabac on aura une fumée qui sera à haute température et tout ça va former ce qu'on appelle une vasoconstriction, donc le flux sanguin sera réduit et donc la cicatrisation sera plus lente. On aura donc des retards de cicatrisation. Donc idéalement, on demande de faire une semaine, une fenêtre d'arrêt tabagique, soit une semaine avant et 10 jours après. C'est très très difficile pour certaines personnes. Donc au minimum, moi je demande un jour avant ou le jour même et 3 jours d'arrêt du tabac et le moins possible pendant les 10 premiers jours.
Voilà, et c'est vrai pour toutes les opérations.
C'est vrai pour toutes les opérations de chirurgie orale et encore plus important pour les implants dentaires, puisque dans les implants, il y aura un phénomène d'intégration de l'implant à l'os.
Voilà, on continue ce matin de parler des différentes chirurgies courantes de la bouche. On parlera des kystes dans un instant, puis on parlera aussi des implants. Si vous avez des questions concernant les dents de sagesse, vous pouvez les poser. L'émission est en direct au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et le docteur Bilal Omarji qui est avec nous, chirurgien oral. On parle des dents de sagesse hein, dans un premier temps, et des différentes chirurgies courantes de la bouche. Donc il y a des nouvelles techniques pour enlever les dents de sagesse, vous me dites, qui sont moins invasives, moins agressives, et on a moins les joues de hamster. Expliquez-nous pourquoi on est tout gonflé, finalement, puisque c'est les dents qu'on enlève, et qu'est-ce qu'on peut faire pour dégonfler rapidement?
Alors pourquoi on est beaucoup gonflé? Puisque autour de la mâchoire, il y a beaucoup de tissus mous. Hein, les tissus mous sont des tissus qui sont représentés par les muscles. Les tissus un peu lâches, on a du tissu graisseux ou du tissu celluleux qui vont permettre le glissement de toute la mimique, de toute la musculature faciale. Et ce sont ces espaces qui vont être infectés ou inflammés et qui, dans l'accident infectieux des dents de sagesse qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi en post-opératoire, parce qu'en fait, l'œdème inflammatoire va se loger là-dedans. Et du coup, on aura cet œdème qui vont former un peu des bajoues de hamster. Alors, plus la chirurgie est invasive, plus l'œdème est présent. Donc, plus le patient a des facteurs qui vont présenter des difficultés de cicatrisation comme le tabac, le diabète ou des maladies systémiques, maladies générales, on aura un œdème beaucoup plus important. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, c'est d'avoir un praticien qui prémédique le patient, c'est-à-dire il y aura des médicaments qu'il faudra commencer en préopératoire. À partir du matin de l'intervention, il y aura des corticoïdes qui vont préparer le corps à cette chirurgie. Et ensuite, en post-opératoire, aussi, on continue ce type de médicaments, antibiothérapie si besoin, corticoïdes sur 3 à 5 jours. Et puis, ce qu'on peut faire immédiatement après l'intervention, c'est le packing glacé. On met des poches de glace 20 minutes toutes les 2 heures. D'ailleurs, maintenant, on a une innovation, ça s'appelle le masque facial réfrigéré, qui permet d'avoir vraiment ce refroidissement, et tout refroidissement va limiter l'inflammation.
C'était vendu aux États-Unis pour avoir l'air plus jeune à une époque.
Exact, ça revient sur le marché.
Alors, Myriam est avec nous au 01 53 48 3000. Myriam, bonjour, vous êtes la bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour.
Bonjour Myriam.
Voilà, moi je vous appelle parce que justement je suis en pleine, si on peut dire, implantation. J'ai 3 dents que je implantées, si vous voulez. La première partie du travail a été faite. Là, je dois attendre 4 mois pour que l'on puisse me poser les couronnes dessus. Et ce que j'aimerais savoir, parce que j'ai pas eu beaucoup d'informations au niveau pratique sur ces implants, la base des implants, est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on peut se brosser? Comment ça se passe?
D'accord. En fait, les implants dentaires vont permettre de remplacer des racines, les racines naturelles. Donc, ce sont des racines artificielles qui sont en titane médical. Ils peuvent être en céramique, mais c'est une autre question. En fait, quand on va poser l'implant dentaire, le chirurgien dentiste ou le chirurgien oral, il y aura une période d'intégration à l'os, qu'on appelle une phase d'ostéo-intégration. Cette phase d'ostéo-intégration est très fragile pendant les 5 à 6 premières semaines. Donc, il faut éviter de manger sur les implants. Ensuite, il y a deux types de techniques. Soit on a une implantologie un peu difficile, donc le chirurgien va faire de l'implantologie dite enfuie. On aura une mise en nourrice de cette racine artificielle, donc invisible dans la bouche, puisque la gencive recouvre l'implant dentaire. Il peut avoir des techniques de dents provisoires selon votre dentiste ou pas, surtout quand c'est une dent de devant, ça se comprend par rapport à l'esthétique. Mmh. Ou s'il y a un implant qui est facile, qui a une bonne stabilité lors de la chirurgie, on a ce qu'on appelle une vis de cicatrisation qui ressort la gencive, qui va permettre de préparer directement la gencive et de pouvoir mettre directement la couronne sans deuxième chirurgie 4 mois après.
Alors, vous, Myriam, c'était il y a combien de temps?
Ben écoutez, ça fait 10 jours.
Ah oui,
10 jours, donc fragile, et éviter de manger du côté des implants dentaires. En tout cas, alimentation molle pendant ce mois.
D'accord. Et je voulais vous poser une deuxième question, si vous permettez.
Alors, la deuxième question n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Vous aurez un reste à charge, hein, mais sinon, vous pouvez y aller. Allez-y.
D'accord. J'aurais voulu savoir quelle est la durée de vie d'une dent implantée au niveau de la solidité.
Alors, rien n'est à vie en chirurgie dentaire. Les implants dentaires ont un taux de succès de 90 à 95% à 10-15 ans. Voilà, il peut avoir toujours des petits soucis simples à régler, comme la couronne qui se décolle ou qui se dévisse, donc un petit coup de tournevis règle à faire. On peut avoir une petite fracture de céramique, il faut refaire la couronne. Ou il peut avoir des dégâts plus importants, ce qu'on appelle la périimplantite, l'inflammation autour des implants. Donc, comme les dents, les implants peuvent se déchausser et on peut perdre l'implant dentaire.
D'accord, mais la durée de vie, c'est 10-15 ans.
Alors, la durée de vie, on a un bon taux de succès au-delà de 85-90% à 10-15 ans. La clé, c'est la maintenance chez votre dentiste une fois tous les ans. Allez faire nettoyer votre implant dentaire sous la gencive et ayez toujours une bonne hygiène avec des petites brossettes ou des jets d'eau.
Merci beaucoup. Merci, docteur.
Je vous en prie.
Merci pour votre question, Myriam. C'est Fatima qui est avec nous au 01 53 48 3000. Fatima, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour docteur.
Bonjour.
Oui, moi je vous appelle parce que je me suis arraché une dent de sagesse il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Et en fait, j'ai entendu là qu'il fallait prendre des antibiotiques auparavant. Moi j'ai rien pris. En fait, je suis arrivé chez le dentiste. J'étais sur Paris. Déjà, j'ai eu du mal à trouver un dentiste là où j'habite. Du coup, je suis arrivé puis il me l'a arraché sur place. C'est vrai que ça a gonflé. Il m'a juste prescrit de Doliprane et des bains de bouche. Et faire attention exactement de ce que je mange et de nettoyer un petit peu. Et puis bon, là, c'est vrai, ça s'est bien passé. Mais là, j'ai demandé à mettre 2 implants. Et en fait, il y a un endroit où je ne peux pas mettre. Il m'a dit non, c'est obligé, il faut mettre parce que sinon, en fait, votre dent va se...
Et un implant sur pour une dent du fond, pour une dent de devant?
Au milieu, en fait, elle est au milieu. Elle est avant la dent de sagesse que j'ai enlevée.
Alors déjà pour l'antibiothérapie au niveau des dents de sagesse, il y a des dents de sagesse qui sont compliquées, qui nécessitent une intervention chirurgicale. Il vaut mieux voir un chirurgien oral.
C'est un stomato qui me l'a enlevé.
Ou un stomatologue, c'est l'équivalent, comme on a vu tout à l'heure. Et donc l'antibiothérapie, selon la recommandation officielle, n'est pas obligatoire, mais on peut prendre une heure avant, c'est ce qui est recommandé, au moins une seule fois. Donc c'est un flash d'antibiotiques. Pour une dent de sagesse très simple qui est déjà sortie dans la bouche, ça peut être l'équivalent d'une dent classique. Il n'y a pas besoin de point de suture et pas forcément besoin d'antibiotiques. Pour les implants dentaires, quand on perd une dent, on a un phénomène de réarrangement, de réalignement des dents autour, les dents du dessus ou du bas, les dents d'à côté, qui vont essayer de fermer l'espace. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais plutôt sur 5-6 ans. Et donc oui, le fait de ne pas avoir de dents qui permettent le bon alignement peut à long terme provoquer un désalignement.
Mais est-ce qu'il faut mettre un implant avant? Ça n'existait pas, les implants?
Ça n'existait pas les implants dentaires, mais il y avait d'autres moyens prothétiques, le bridge ou l'appareil.
On mettait des bridges,
voilà. Ce qui permet de caler la denture.
Parce que juste à côté, de l'autre côté gauche, j'ai un bridge. Et lui, il me conseille un implant. En fait, moi, j'ose pas trop. Il m'a dit non, mais c'est mieux que le bridge parce que les dents que vous avez à côté, c'est encore bien. On peut pas m'expliquer.
Alors oui, si votre bridge est déjà posé et il y a aucune infection, aucun symptôme, il y a aucune raison d'aller déjà l'enlever, hein, on fait pas du surtraitement. Et oui, actuellement, la solution idéale pour remplacer une dent manquante, c'est l'implant dentaire, puisque l'implant dentaire ne remplace que la dent manquante. Il va pas s'appuyer sur d'accord. la dent d'à côté. On n'aura pas besoin de tailler les dents d'à côté.
Oh, mais là, comme il y en a deux, il m'a dit de mettre un implant, c'est ça.
Il y a deux dents manquantes.
Oui, c'est ça. Il y en a deux.
Donc, en fait, en fonction de l'espace résiduel qui peut se réduire, on peut mettre un seul implant pour deux dents, mais en général, c'est deux un implant par dent. Mais ça dépend, tout cas est particulier. Il faut étudier votre mâchoire, combien de millimètres il reste pour faire une belle dent. Donc, la première technique avant d'implanter, ce qu'on appelle, c'est de faire un projet esthétique. Donc, ça peut se faire soit le chirurgien fait un modèle en plate de votre bouche, et en laboratoire, on pourra reconstruire votre dent avec une maquette en cire, ou actuellement, on peut faire directement en 3D avec le docteur.
Qu'est-ce qui vous retient, vous, Fatima ?
Bah, en fait, le bride, j'étais pour. En fait, ça me dérange pas parce que je l'ai depuis 7-8 ans.
Ouais.
Je l'ai fait par un dentiste qui est parti à la retraite. Ouais. Nickel, franchement, il n'y a rien à dire.
Donc, vous préférez cette technique, vous, alors ?
Je préfère, ouais. Mais le fait de me dire qu'en fait, il va mettre, un implant, en fait, je sais pas, psychologiquement, j'arrive pas à concevoir.
Oui, on retrouve ça chez les patients, le fait d'avoir un corps étranger. Mais soyez rassurés là-dessus, le corps étranger, il est en titane médical, c'est comme les personnes qui ont des prothèses de hanche, c'est la même matière. Il y a aucune raison, de rejet. Et encore une fois, on a un taux de succès immédiat lors de la pose d'implant qui est au-delà des 95%.
C'est intéressant ce que dit Fatima. Chez les patients qui préfèrent quand même avoir cette technique du bridge ou de la couronne avant, les dentistes poussent maintenant à avoir des implants ?
Oui, puisque le coût brut, déjà au niveau financier, c'est un implant dentaire équivaut à un bridge de trois éléments. C'est pas plus cher au niveau du coût brut, mais le reste à charge sera différent par rapport à votre mutuelle et votre sécurité sociale, puisque la Sécu va mieux rembourser le bridge que l'implant dentaire. La Sécu est restée un peu arriérée là-dessus, puisqu'on a une prise en charge des années 70. Et en tout cas, il est conseillé, quand on peut faire un implant dentaire, de faire un implant dentaire par rapport au bridge, puisqu'on aura une durée de vie plus longue avec l'implant dentaire et on aura un meilleur esthétique.
Fatima, est-ce que ça répond à votre question ?
Ouais, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est même pas une question d'argent, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, le fait d'avoir cet implant il remplace la dent d'origine, hein. Et je me dis, dans la bouche, en fait, c'est dangereux, les dents, la bouche, et ça relie vraiment tout le corps.
Non, il y a aucune raison scientifique d'avoir un danger particulier par rapport à l'implant dentaire. Pareil, de l'autre côté, le fait d'avoir un bridge dentaire oblige parfois à dévitaliser les dents d'à côté. Donc, tout ce qui est dévitalisation comporte quand même un risque infectieux des dents d'à côté. Donc, en faisant la balance, c'est l'implant dentaire qui est le plus efficace et le plus médical actuellement.
Bah, c'est ce qu'il m'a conseillé, lui. Donc, du coup,
c'était un beau conseil, Fatima. C'était un bon conseil. Suivez-le.
Ok, parfait. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite
bonne journée.
Voilà. Merci. Bonne route, Fatima. Puisque visiblement, vous êtes sur la route. À bientôt. Allez, on continue à parler de ces opérations les plus fréquentes dans la bouche. Si vous avez des questions à poser au docteur Omar J, profitez-en ce matin. Il y répond 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et nous parlons des différentes chirurgies courantes de la bouche ce matin avec le docteur Bilal Omarji, qui est chirurgien oral. Vous êtes là au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Et nous avons Farid qui est avec nous en région parisienne. Farid, vous êtes le bienvenu sur Beurre FM.
Oui, bonjour.
Bonjour Farid.
Bonjour Farid.
Ouais, c'était pour un petit renseignement.
Bon, on y va, on est parti.
En fait, je vous explique, là, je me suis fait enlever ma dent il y a à peu près un mois et demi. Et quand je me suis fait enlever cette dent, ils m'ont fait une radio et j'ai mes dents de sagesse au fond qui, en fait, poussent en travers. Et tellement que ça pousse en travers, ça m'a cassé mes dents au fond, quoi.
Vous avez quel âge ?
J'ai 22 ans.
Ok, donc à 22 ans, vos dents de sagesse sont bien édifiées et vous avez ce qu'on appelle un accident mécanique. Donc déjà, la position de la dent et la dent de sagesse est en mal position. Elle peut être couchée, une dent de sagesse horizontale, et elle est en contact direct avec la dent d'à côté. Et donc on peut avoir une carie de la dent d'à côté ou une destruction de la racine. Donc là, il faut aller rapidement enlever votre dent de sagesse pour sauver la dent d'à côté.
D'accord, mais en plus c'est des deux côtés et franchement, ça me fait vraiment mal.
Bah, vous aurez droit à une double
tarif de groupe.
Vous aurez droit à une double intervention dans la même séance, okay. Si c'est avec un spécialiste.
Ok, nickel. Et aussi un dernier renseignement.
Oui.
Je sais que c'est gratuit les renseignements.
Non, la deuxième question n'est pas remboursée. Hein. La première était remboursée. Allez-y.
C'est pas grave, je paierai. En fait, sur toutes mes autres dents, on va dire que au niveau de la racine, au niveau de la gencive, j'ai comme des petits trous, des tout petits trous. Et je sais pas, ça provient d'où.
Est-ce que vos gencives saignent lorsque vous brossez les dents ?
Pas tout le temps.
Pas tout le temps. Donc en fait, quand vous pouvez avoir une maladie gingivale qu'on appelle une gingivite, donc c'est un gonflement des gencives, saignement. Si cette maladie évolue, elle va attaquer l'os en dessous, l'os va se réduire, ce qu'on appelle une parodontite ou une maladie de déchaussement dentaire. Et donc comme l'os se déchausse, la gencive suit, ce qui va avoir comme conséquence esthétique d'avoir des espaces noirs entre les dents puisque la gencive n'est plus là. On appelle ça des trous noirs.
C'est ça que vous avez.
C'est même pas entre les dents, c'est sur la dent en fait. On va dire en plein milieu de la dent, j'ai des petits trous.
Donc ça peut être tout simplement des caries de l'émail, des caries débutantes. Voilà, pareil, contrôle dentaire à faire chez votre dentiste préféré.
J'ai jamais entendu ça de ma vie, ça.
Et aussi, en fait, je compte, arracher, plusieurs dents pour poser directement
des implants.
Des dents. Des implants, voilà. Des implants, et est-ce que vous me le conseillez ou pas ? Parce que, en fait, j'en ai marre d'avoir mal aux dents, etc. J'ai envie de m'arracher les dents et directement poser des implants, quoi.
Alors, le principe, attention, l'implant n'est jamais à vie, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la première question à répondre, c'est est-ce que la dent est conservable ou non? Si la dent est conservable, qu'il y aura des soins à faire sur la dent, en général, soit une carie, c'est une restauration par du composite. Si la carie est avancée, il faudra faire une dévitalisation avec une couronne. Donc il vaut mieux avoir une racine, sa propre racine naturelle, qu'un implant dentaire qui est une racine artificielle.
Même si on en a marre de ses dents.
Même si on a marre de ses dents. Donc c'est un check-up complet qui vous attend chez votre dentiste.
D'accord, ok. Ok, nickel. Tout est bon.
Bonne route, Farid.
Merci à l'équipe, vous êtes au top.
Voilà, merci à vous de nous avoir appelés. À bientôt, Farid. Alors, on va dans le Tarn. Tarn. J'adore comment on orthographie le Tarn. Comment ça va, Linda ?
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Philippe.
Et à l'accent, je sais que vous êtes dans le Tarn.
Oui, l'accent aussi qu'il y a avec.
Mais magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui, Linda ?
Alors, moi, j'appelle pour un renseignement pour ma fille. Bonjour docteur.
Bonjour.
Et ma fille, elle a 20 ans. Nous, on habite dans le Tarn. Elle est sur Paris. Elle fait ses études sur Paris. Donc ma fille, elle a vu, elle était suivie par un dentiste, orthodontiste aussi. Et il lui a fait des extractions de dents. Elle a eu, elle avait un appareil. Il lui a dit qu'elle avait pas de dents de sagesse. Et finalement, elle les a. Et dernièrement, on a vu un autre dentiste qui nous a dit qu'elle a une dent de lait qui a été oubliée, donc qui n'est pas tombée. Alors moi, c'est la question. Je voulais savoir déjà, le docteur consulte où et est-ce qu'il serait d'accord de prendre ma fille comme patiente, parce qu'avec tous les patients... Les médecins, maintenant, ne prennent pas de nouveaux patients. Et comme elle est sur Paris, on ne peut pas faire les soins dans le Tarn.
Alors, le Conseil de l'Ordre ne va pas tout à fait être d'accord avec votre proposition, pour des tas de raisons, parce que les docteurs qui viennent à l'antenne ne peuvent pas se faire de la publicité. Elle est où, d'accord, votre fille, Linda ?
Elle est sur Paris, elle est à Nanterre.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller comme adresse, docteur Margie à Nanterre ?
Tout simplement, maintenant, on utilise des applications en ligne qui sont facilement trouvables. Et ce qu'il faut mettre comme mot-clé pour tout ce qui concerne la chirurgie, c'est chirurgien oral ou stomatologue pour les anciens praticiens de la discipline.
Voilà, ça, c'est la spécialité. Maintenant, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est une dent de lait qui a été oubliée, c'est possible ou pas ?
Bien sûr, puisqu'on peut avoir ce qu'on appelle une agénésie dentaire, ça veut dire, comme on l'a vu tout à l'heure, la dent d'adulte n'a pas été formée dans la mâchoire. Donc on aura la dent de lait qui va persister. En général, ce sont des petites molaires de lait qui vont donner des prémolaires par la suite. Et ces petites dents de lait qui restent, donc soit la dent d'adulte, elle est incluse, mais en mauvaise position, elle n'a jamais pu pousser, soit elle est tout simplement absente. Et dans ce cas-là, il faut faire un bilan scanner qu'on appelle un bilan 3D Cone-Beam, et on voit si la dent de lait a encore un potentiel de vie sur l'arcade dentaire. Si ce n'est pas le cas, il faudra prévoir une extraction de cette dent de lait avec un remplacement par un implant. C'est un cas tout à fait classique qu'on retrouve dans nos consultations.
En fait, la dent définitive, elle est dessus, mais elle n'arrive pas à pousser.
Oui, alors donc la dent, elle est retenue, on appelle ça une dent retenue. Voilà. Donc là, il y a deux options de traitement. La dent, elle peut être acheminée sur l'arcade dentaire. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle une chirurgie de traction orthodontique. Donc on va faire de la place, on va faire une fenêtre osseuse et on va coller une petite bague, un petit bouton sur la dent, et l'orthodontiste va tracter la dent avec une chaînette, et elle se met en place en 3 et 6 mois en fonction de la difficulté du trajet de la dent. Donc là, c'est l'orthodontiste, ortho ça veut dire droit, et l'orthodontiste qui est le spécialiste de l'alignement dentaire. Alors attention, l'orthodontiste n'enlève pas les dents, il n'a pas le droit, si c'est un orthodontiste spécialiste, de faire la chirurgie, puisque chacun a sa discipline de spécialité, et dans ce cas-là, il travaille de concert avec un chirurgien oral qui lui fera la petite chirurgie orthodontique pour le faciliter son traitement orthodontique.
Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver sur Paris un chirurgien, enfin un dentiste pour la soigner.
Et le docteur Margie, il est blindé.
Et voilà.
Bon,
dommage.
Non, donc, je pense que vous allez trouver facilement.
Non, vous allez trouver.
Non,
avec les mots-clés.
Ça fait un an qu'on cherche et c'est vraiment, vraiment difficile de trouver des dentistes pour des nouveaux patients.
Là, moi, je vous conseille, comme elle a eu un traitement d'orthodontie, je comprends bien, elle a eu des bagues à Paris, c'est ça ?
Oui. Non, elle a eu des bagues dans le Tarn.
Dans le Tarn, d'accord, ok, je comprends bien. Voilà. Donc là, il faut déjà trouver soit un dentiste généraliste qui la prend correctement en charge, ou soit directement un spécialiste, un chirurgien oral. Et encore une fois, il y a les mots-clés, chirurgien oral, Paris, stomatologue Paris.
Maintenant, lorsque vous avez beaucoup en région parisienne, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, docteur Margie, ce sont les centres dentaires.
Oui, alors devant la pénurie de praticiens, l'État a mis en place, a facilité la mise en place des centres dentaires. On retrouve ça à foison à Paris, je crois qu'il y en
a beaucoup à Paris.
Il y en a beaucoup à Paris. Sur toute la France, il y a à peu près 2000 centres médicaux, dont la moitié est dentaire. Moi, je tiens à alerter un peu les patients, parce que souvent, dans les centres dentaires, il y a un turnover des praticiens et on n'aura pas forcément une bonne qualité, une bonne prise en charge. Oui, il y a des bons praticiens aussi dans ces centres. Le moyen pour le patient, c'est d'avoir un contact direct avec ce praticien, lui demander ses diplômes, parce que pour avoir des diplômes de spécialité ou pas, c'est un peu opaque pour le patient, aussi l'origine de son diplôme, le pays de son diplôme, etc. Donc il ne faut pas hésiter à poser les questions à son praticien.
Merci Linda du Tarn. Alors on a Rachid qui est avec nous. Rachid, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour, voilà, je voudrais poser une petite question, s'il vous plaît.
Alors par définition, les petites questions sont toujours des très grandes questions.
Ah, non, pas du tout. Voilà, depuis quelques jours, à peu près une dizaine ou une quinzaine de jours, quand je me lave les dents, soit à l'eau chaude, j'ai mal du côté droit, en haut de la bouche, et aussi quand je prends du froid ou du sucré. Alors, j'arrive pas à comprendre comment c'est venu. Je me brosse les dents régulièrement, matin et soir.
Oui, bien sûr. Alors, la sensibilité dentaire a deux origines. Soit c'est une carie. Alors, classiquement, la carie, elle a pour symptôme sensibilité au froid, au chaud, au sucré. Donc, il y a une carie. Donc, la carie, c'est un petit trou dans la dent. Plus le trou avance, il y a des microbes dedans. Plus le trou avance près du nerf dentaire, ben il y a la dent qui devient très sensible. Donc là, vous commencez à voir les manifestations d'une carie. Donc il faut aller rapidement chez le dentiste. Alors l'autre origine, c'est que votre gencive peut être légèrement déchaussée, parfois même de 1 mm, ça suffit. Et on aura la racine qui est hypersensible, qui sera mise à nu et qui sera donc irritée quand vous mangez une glace ou quand vous
même
prenez
par
quelque
je
chose.
Mais quand je mange un gâteau sucré, ça me
Lance. Sucré et lancement égale carie dentaire.
Voilà, c'est pour ça.
Tout simplement.
Et pourtant, dites-moi, docteur, j'utilise des bains quotidiens à Listerine de bains de bouche. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien?
Oui, alors les bains de bouche, il y a deux types. Il y a les bains de bouche médicaments qu'on achète sur ordonnance qu'il ne faut pas utiliser plus de 10 jours. Et puis les bains de bouche du commerce classiques comme Listerine que vous pouvez, et d'autres marques que vous pouvez utiliser quotidiennement. Et pour éviter les caries, certes, tout le monde se lave les dents. On entend, j'entends ça souvent. Mais il y a aussi une méthode de bien se laver les dents. Croyez-moi, c'est difficile d'avoir une très bonne hygiène dentaire. Donc maintenant, sur YouTube, vous avez des démonstrations faciles. Tapez brossage dentaire. Vous allez voir, il y a une technique particulière. Il faut faire des petits ronds ou éviter le brossage horizontal et avoir une bonne technique en
moi,
rouleau.
On m'a dit qu'il fallait faire de bas en haut, de haut en bas.
C'est ça, du rose vers le blanc, de la gencive vers la dent.
Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué, alors je fais ça tout le temps.
Et vous pouvez,
J'utilise comme dentifrice du Parodontax, qu'on m'a conseillé aussi un dentiste.
Un Parodontax.
Alors là, merci pour eux, vous allez avoir un carton qui va être livré chez vous, Rachid. Merci pour la pub.
Excusez-moi.
Alors, Parodontax, c'est un dentifrice qui a des ingrédients un peu anti-inflammatoires, anti-saignement pour les gencives. C'est bien. Il faut savoir une chose, que les dentifrices ne sont pas des médicaments magiques. La meilleure façon pour prévenir les maladies dentaires gingivales, c'est votre technique de brossage, comme on l'a dit.
Qui est plus importante que la pâte.
Voilà. D'accord. Et la pâte dentifrice ne représente que 10% de l'efficacité de la prévention des maladies buccales. En tout cas, vous pouvez utiliser des adjuvants au brossage, comme le fil interdentaire ou la brossette interdentaire qui a l'image d'un cure-dent, mais n'utilisez pas un cure-dent qui est trop agressif. Utilisez des petites brossettes qu'on trouve en pharmacie ou au supermarché maintenant, qui vont permettre d'aller brosser entre les dents délicatement, parce que là, c'est une zone dangereuse pour les caries.
D'accord, ben je vous remercie, docteur.
Vous en prie.
Au revoir et bonne journée.
Merci, Rachid, pour votre question. Est-ce qu'il faut croire ce qui est écrit sur les promesses de dentifrice? Vous voyez, anti-carie, spécial blanchiment, il y a des dentifrices au charbon noir.
Je sais pas si charbon noir.
Vous avez vu ça maintenant, c'est magnifique.
Alors, base
de sel.
Il y a un aspect marketing qui dévoie un peu la propriété originale de la molécule, comme le charbon a un effet polissant, donc il y aura un effet brillance, mais éphémère. Ça va pas aller enlever les colorants qui ont déjà pénétré à l'intérieur de la dent.
Est-ce que les dentifrices anti-tartre, par exemple,
ont des
efficacités prouvées?
Non, pas plus que ça. Ça va limiter l'inflammation de la gencive, mais pas plus que ça. Encore une fois, c'est la technique de brossage autour de vos gencives, autour de vos dents, qui sera beaucoup plus efficace.
Et les bains de bouche n'excluent pas le brossage. Hein. C'est pas la place d'eux. Hein.
Ah, complètement. Ce serait un effet perlimpinpin, sinon.
C'est avant ou après le bain de bouche, d'ailleurs?
Le bain de bouche, c'est après le brossage.
D'accord.
De 3 à 4 minutes.
De 3 à 4 minutes par brossage.
Trois fois par jour. Ou deux fois au moins. Le soir, c'est le plus important.
Bien, merci d'avoir été avec nous, docteur Omar J. Je rappelle que vous réécoutez les podcasts de l'émission beurrefm.net. Vous avez la vidéo YouTube, puisque l'émission est captée sur la chaîne YouTube de Beurre FM. À très bientôt, doc.
Merci, Philippe. À bientôt.
AVS revient dans un instant.